Notre dernier sujet est donc le Seigneur Jésus face à la souffrance humaine. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'on a, en 3 semaines, considéré l'ensemble des choses qu'on pourrait considérer. Par exemple, dans la Bible, il y a un sujet qui est important, c'est la santé, qu'on pourrait traiter. Il y a un autre sujet important, c'est le sens du Pentateuque avec les prescriptions. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait en retirer pour la vie chrétienne et la pratique pastorale. On pourrait aussi creuser beaucoup plus que ce qu'on a fait la question de la thérapie pour savoir comment se positionner par rapport à la thérapie. Et il y a un livre que je vous conseille de télécharger sur Internet qui est gratuit, c'est « Entourer les faibles » de Pfeiffer. Voilà. Parce que là, il y a tout le témoignage ou l'enseignement d'un psychiatre qui nous fait peut-être comprendre de manière assez simple ce que voudrait faire la psychiatrie et aussi le rapport entre la psychiatrie et la pratique pastorale. Et j'ai trouvé que son approche était très très intéressante, elle m'a bien plu. Alors, j'ai choisi de finir à la fois notre semaine et nos 3 semaines avec cette présentation, parce que finalement, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous est décrit à la fois comme celui qui règle ses propres souffrances, et on l'a un peu vu avec naître à Noël un handicap, vous vous en souvenez ? Hein, voilà, donc... un aspect de la vie du Seigneur Jésus par rapport à sa propre souffrance, comment est-ce qu'il fait ? Et donc, cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'il fait par rapport à la souffrance des autres. Dans ce montage, j'ai pris des tableaux que, quand j'ai fait ce montage, j'identifiais, donc je savais qui avait fait ces tableaux, puis là, je ne l'ai pas noté. Donc, je ne sais pas qui les a fait, mais voilà, on remercie ceux qui les ont fait. Alors, il y a du Rembrandt, il y a le Caravage, il y a différents peintres qui sont très célèbres. Voilà, bon, je pense que celui qui est le plus reconnaissable, c'est Rembrandt, hein, avec ses clairs-obscurs, avec les couleurs assez spécifiques. Mais bon, c'est pas très grave de pas savoir, en fait, qui a fait ces tableaux. Ici, c'est intéressant de voir, les disciples qui sont dans la barque. On peut voir ça en Jean 6, hein, le Seigneur multiplie les pains, ensuite les disciples sont sur la barque, et le Seigneur Jésus marche sur les eaux à leur rencontre, et ensuite il y a la foule qui cherche le Seigneur, et il va y avoir tout l'explicatif en Jean 6 du Seigneur à l'égard de la foule sur manger la viande qui ne périt pas, et non pas la viande qui périt, etc. Hein, vous me recherchez parce que vous avez mangé du pain. Et je trouve que le Seigneur, ici, comment dire, quand il est de dos, hein, et quand il voit ses disciples qui sont sur la barque, qu'est-ce qu'il doit penser d'eux ? Hein, il voit leur souffrance, et il marche, donc il y a une tempête, il y a la mer de Galilée, le lac de Galilée, le lac de Génézareth est déchaîné, il paraît que c'est un lac qui est assez bas, et donc il y a des vents qui sont assez violents et des tempêtes qui sont très soudaines et très fortes. Et donc, c'est intéressant de voir comme il vient vers eux en marchant sur les eaux. Comme on l'a vu, des fois il y a des miracles, des fois il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va dire en introduction ? Ici, je vous ai mis un petit texte qui n'est pas trop mon habitude, mais ça permet de fixer des choses. Je le lis. La souffrance touche toute personne et toute la personne. On souffre à tout âge, partout et dans toutes les cultures. Les réactions à la souffrance sont différentes, mais au fond, toute personne réagit de la même manière avec l'inquiétude, la colère, le découragement. Et si l'intensité de la souffrance diffère selon les personnes, Toute souffrance est néanmoins douloureuse. Autrement dit, il m'est arrivé, pas assez souvent, mais en tout cas quelquefois, de dire aux souffrants qui me disent « Vous ne pouvez pas me comprendre », il m'est arrivé de leur dire « Mais vous non plus, vous ne pouvez pas me comprendre. Et vous ne savez pas non plus ce dont je souffre. Donc, ne soyez pas écorché vif en disant « J'ai une souffrance que personne ne peut comprendre » ou « J'ai plus de souffrance que vous ». Vous ne savez pas ce que je vis en fait. Et dans mon ciel intérieur, il suffit que le soleil soit couvert d'un nuage et que tout le reste du ciel soit dégagé pour qu'il y ait quelque chose de scandaleux. Donc je pense que c'est important de dire que tout le monde souffre et ça nous met, nous accompagnants, un peu au même niveau que le souffrant. La différence entre l'accompagnant et le souffrant, c'est que l'accompagnant, c'est donner les moyens d'avoir des clés. Et nous, on sait comment passer d'une pièce à l'autre parce qu'on a les clés, alors que le souffrant, il est coincé dans une pièce. Ou il essaye peut-être de sortir de la pièce, il est en train d'essayer à la porte, en fait, il ne se rend pas compte qu'il peut simplement la contourner. Hein, il manque un peu des clés. Donc la souffrance touche toute personne, mais par contre, Jésus, hein, acte 10, verset 38, nous dit que Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Il est passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et donc on retient cette expression qui est centrale dans la pratique pastorale, Dieu était avec lui. C'est intéressant, je ne vais pas faire trop de digressions, sinon on ne s'en sort pas. Mais c'est intéressant de voir dans l'histoire du peuple Israël sous le sacrificateur Élie, Eli, pas le prophète, hein, que ses fils Phinée et Ophni avaient amené l'arche pour combattre contre les Philistins. Et l'arche, les Philistins avaient pris l'arche. Et quand une fois, un jour, j'ai lu ce texte, je me suis dit, on ne prend pas Dieu avec soi. C'est Dieu qui nous prend. Autrement dit, Dieu était avec lui, mais c'est pas lui qui a pris Dieu. Hein, voyez, et donc, en fait, c'est à nous de se placer dans des conditions dans lesquelles Dieu est là. On ne demande pas à Dieu de venir. Dieu nous a appelés, et c'est pour ça que dans le contrat, ça m'a paru tellement important d'insister sur le fait que on fait de l'accompagnement pastoral par appel et non pas parce que quelque part on a décidé quelque chose on y a été obligé ou que les anciens d'église ont dit bah, tiens, toi tu ferais bien de l'accompagnement pastoral, forme-toi et tu vas le faire. Non, non, c'est un appel personnel. Ici, c'est donc la photo, le tableau qui décrit Jésus et Zachée. Hein, on voit Zachée qui est dans l'arbre et qui regarde Jésus, qui est donc ici à droite. Hein, vous voyez Zachée là. Et on peut penser que Jésus était en face de la souffrance de Zachée. Et à un moment donné, Jésus va voir Zachée et il lui dit, il faut que je vienne dans ta maison. Voilà pour moi un peu une introduction de la démarche pastorale en Jésus. Jésus, il s'adresse à tous ceux qui sont là. Mais il a vu que Zachée était dans l'arbre. Autrement dit, à nous d'avoir des antennes, à nous de savoir voir, communiquer, redire. Hein. Ici, on a donc un tableau de Rembrandt, hein, qui est très connu, avec le fils prodigue. Avec, je ne sais pas si vous avez vu ce tableau un peu en grand, en fait, le père, il a une main d'homme et une main de femme. Hein, voilà, donc toute une symbolique dans ce tableau qu'il faudrait expliquer, mais moi je ne suis pas un spécialiste ni de Rembrandt ni de l'art. Donc je laisse. Il y a un livre extraordinaire. Notre souffrance. Donc, on peut dire que de la même manière que ici le Père, en quelque sorte, représente Dieu. Hein, il a une C'est une parabole que Jésus donne et que Jésus donne aux pharisiens hein, cette section de l'évangile de Luc. Au chapitre 16, 15, on voit donc dans ce tableau peut-être comment est-ce que Dieu fait avec notre souffrance. Et écoutons dans les réponses du Seigneur, dans les descriptions qui sont faites, comment est-ce que Dieu voit la souffrance? Alors en premier lieu, je vous propose peut-être dans ce tableau, de se souvenir en Luc 15 du Père qui regarde de loin. Autrement dit, le Père, il laisse en fait le fils prodigue, faire ce qu'il doit faire. Le Père, quelque part, je pense qu'il sait que la souffrance, elle est nécessaire. Elle a son utilité. Et je pense que Dieu fait comme ça avec nous. C'est difficile d'affirmer les choses, hein. Mais on a besoin d'expérimenter. On a besoin quelque part de se brûler les ailes pour qu'on sache comment ne plus les brûler. On a besoin de se faire mal pour se faire du bien. Je pense à cette expression, je crois que c'est en Marc 10, où le jeune homme riche vient voir Jésus. Alors le jeune homme riche lui dit, j'ai observé la loi. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as distribué aux pauvres. Et lui s'en alla tout triste, mais il est dit, et Jésus l'aima. Hein, je crois, l'ayant regardé ou le regarda, il l'aima. Et donc, l'attitude de Dieu en face de notre souffrance est de fait notre attitude en face de celui qui souffre. Nous, il faut qu'on soit attentif à ce que celui qui souffre met en œuvre quelque chose. Il faut qu'on attende, en fait. Et attendre, c'est agir. Si nous, on pense qu'attendre, c'est ne rien faire, alors là, on cultive l'impatience. Hein, attendre, c'est agir. Attendre, c'est laisser le temps pour l'autre de réfléchir. C'est pour ça que je sais bien que quand je parle, c'est important que je fasse des pauses. Pour laisser aux gens le temps de réfléchir, de prendre des notes, etc. Et retenons donc, d'abord dans ce tableau, que Dieu connaît notre souffrance, mais que Dieu attend. Ensuite, en Jean 9, 2, retenons, je propose qu'on retienne que on ne peut pas trop savoir, en fait, globalement, d'où vient l'origine de la souffrance. Quelle est l'origine de la souffrance? Hein, à la question des disciples, Jean 9, verset 2, qui a péché, celui-ci ou ses parents? Pour qu'il soit devenu aveugle, ben Jésus répond pas en fait. Hein. Il dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, donc il répond pas à la question de l'origine. Et donc on ne peut pas en retirer quelque chose, ni pour ni contre en fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de péché ou qu'il y a péché, il n'a pas répondu en fait. Mais nous avons appris dans la pratique pastorale que nous ne rentrons pas dans le pourquoi des choses, mais que nous rentrons dans le pour quoi? Hein, et c'est Job 36, 15. Hein, Dieu ouvre l'oreille au malheureux dans l'oppression. Il ouvre l'oreille. Autrement dit, il y a quelque chose que Dieu fait, et donc Jésus répond la même chose. Hein. Il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, autrement dit, pour qu'il se passe quelque chose. Et ça va bien dans le sens du témoignage de Chan tout à l'heure, concernant sa sœur, hein, pour qu'il se passe quelque chose. Quelques descriptions de la souffrance dans l'évangile, dans les évangiles. Alors par exemple, la femme qui avait une perte de sang, et je mets la souffrance du trop. Hein, trop de maladies, trop de difficultés, trop de... C'est trop. Hein, comme on dit aujourd'hui. Cette souffrance touche à la capacité que le souffrant se donne de pouvoir supporter. La souffrance du trou. Le stress est une souffrance de trop de charges. La contrariété est une souffrance de trop de blocage. On souffre souvent du trop plutôt que de souffrir de la chose. Hein, c'est une accumulation qui, à un moment donné, nous fait réagir. Et à un moment donné, cette femme va aller vers Jésus et toucher son vêtement. Et donc, peut-être retenons que dans la mesure où on fait comme Jésus, on est au milieu de la foule et où on prêche quelque chose, en disant il faut que ceux qui souffrent, finalement, s'occupent de leurs blessures. Alors si on prêche ça, si on est au milieu de la foule, alors ça ne sera pas étonnant que quelqu'un vienne solliciter. En fait, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment, dans nos églises, établir un ministère pastoral. Là, il y a une souffrance et il y a cette femme qui vient vers celui dont elle pense qu'il peut l'aider à en sortir. Autre souffrance, la souffrance du manque, donc dans la même circonstance, hein, le chef de la synagogue a sa fille qui est morte, donc le deuil. Et bon, dans ces exemples, j'ai mis l'être extérieur de Corinthiens 4,16 qui dépérit, hein, le corps qui va pas bien. Ou dans l'être intérieur, la souffrance de Marie, hein, quand Siméon va lui dire qu'une épée transpercera ta propre âme. Et on peut penser à Marie, hein, il nous est dit une ou deux fois, je crois, dans l'Évangile, qu'elle retournait ces choses dans son cœur. Autrement dit, il y a elle en tant que maman. Sais pas si on peut. Moi, déjà, je suis pas une maman. Mais si on peut imaginer en fait la souffrance de Marie, de comprendre quelque part que son fils est un fils qui a une destinée particulière. Je sais pas comment. On peut peut-être se représenter Marie devant la croix. C'est invraisemblable. C'est plus qu'un scandale. Hein? Et qu'est-ce que fait Jésus, hein, par rapport à la souffrance du manque? Mais par exemple, avec le chef de la synagogue, il essaye de parler, mais on se moque de lui, hein? Et il dit, elle s'est endormie, mais il se moque de lui. La foule se moque de lui. Avec Marie, il dit à Jean, voilà ta mère. Il dit à Marie, voilà ton fils. Hein, c'est très, très touchant et intéressant comment il y a des paroles qui sont simples par rapport au manque, des paroles qui peuvent aussi nous inspirer, en fait. Hein, la souffrance du trop, la souffrance du manque, ce sont des souffrances différentes. Mais aussi le manque, quand il est trop, hein, elles sont aussi imbriquées, ces souffrances. La souffrance de la rupture, alors bien sûr, la mort est aussi une rupture, mais c'est différent, la rupture et le manque. Et on voit comment Jésus a fait avec le centurion, en Jean 4, 49, comment ce centurion va lui demander. Mais alors là, Jésus, il lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. Et c'est intéressant on penserait toujours que Jésus a comblé les gens qui s'approchaient de lui. Et voilà là un aspect de la souffrance et un aspect de la réponse de Jésus qui pourrait nous dérouter. Mais je crois qu'il nous montre que quelquefois, il faut que nous ayons de la fermeté. Il faut qu'on sache, alors je fait pas strictement l'analogie de cette scène avec le comportement du Seigneur, mais il faut quelquefois que les personnes qui viennent pour être assistées entendent qu'il ne faut pas être assisté dans la vie. La souffrance de l'origine supposée des choses. J'ai mis que Zacharie, dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc, il ne croit pas à l'annonce de l'ange, et donc il devient muet. Il fait preuve d'une certaine forme d'incrédulité. Autrement dit, l'ange lui annonce que sa femme, Élisabeth, aura un enfant. Ils sont vieux. Il ne croit pas. Et donc, il y a dans le regard que ces gens ont quelque chose qui est à l'origine. Voilà, il se fait souffrir parce que finalement, il suppose que non, ben c'est que l'ange est en train de lui raconter des histoires. Et donc là, la réaction de l'ange, c'est tu seras muet. Et quand Zacharie, à la naissance de Jean, quand on lui demande, quand la foule dit il sera appelé Zacharie, sur une tablette il écrit Jean et son nom, et c'est là où il commence à parler. C'est quand il a le moment peut-être de montrer qu'il croit, qu'il réalise que quelque chose se fait, qu'il parle. Mais en attendant, la réaction, l'aide apportée à Zacharie, c'est quand même quelque chose de sévère. Quand on répond dans la pratique pastorale à quelqu'un et que il sait pas que dire et qu'il est muet, alors nous, quelquefois, on se sent gêné. Pourtant, voilà, pourtant, peut-être que c'est ça qu'il faut dire. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre de conviction et non pas être dans le résultat. On ne peut pas du tout interpréter le résultat en disant « Ah, l'entretien pastoral s'est bien passé. » Autre description de la souffrance, les conséquences de nos actes, du regard qu'on a sur les choses. Pierre a pensé qu'il ne pouvait pas renier le Seigneur. Il s'est même engagé en disant, ben non, 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 je ne le renierai pas. Et quand, en Marc 14, 72, le Seigneur le regarde, c'est là où il prend conscience, en fait, des choses qu'il a faites. Marc 14, 72, je crois que c'est dit strictement, et Pierre, y ayant pensé, pleura. Et on voit que le regard, tout à coup, l'illumination du Seigneur Jésus l'amène à penser à ce qu'il a fait. Autrement dit, dans la pratique pastorale, on ne sait pas en fait comment se manifeste le regard, le regard de Dieu. On ne sait pas ce qui peut amener de la lumière. Par contre, moi, je vais allumer. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui touche. Mais par contre, c'est aux souffrants quand la lumière se produit, d'intervenir. À nous d'amener la lumière. Mais la lumière, on est clair. Mais... Alors, regardons quelques souffrances particulières. Alors, ici, c'est un tableau qui montre Joseph et Jésus. Et voyez comme Jésus est jeune, comme Joseph est âgé. Vous remarquez que Joseph, rapidement, il n'en est plus question. Je crois que dans l'évangile de Marc, il me semble que c'est au chapitre 6 que Jésus est montré comme charpentier et Joseph, il n'est déjà plus là. On dit, on est vraiment au début de l'évangile Et bon, on peut penser qu'il a, voilà, qu'il était plus âgé que Marie ou qu'il est mort. Voilà. Jean II, alors c'est donc c'est pas la situation des noces de Cana là, hein, j'ai mis ça pour montrer le regard de Joseph sur Jésus. Qu'est-ce qu'il pouvait penser, Joseph? Hein? C'est sûr que quand on a un songe et qu'on entend que, en fait, ta femme qui est vierge va enfanter et c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés, voilà, on peut penser à Joseph et à sa réaction, mais l'enfant Jésus, l'adolescent Jésus, l'homme Jésus, face à ses parents, hein, comment est-ce que Jésus voit la souffrance de ses parents? Et dans les noces de Cana, en Jean 2, je vous propose comme souffrance le non-contrôle de la situation. Hein, il y a peut-être que Marie, aux noces de Cana, était dans des noces d'un parent, de quelqu'un qui était proche, en fait. Et on savait que Jésus, hein, on est au commencement de son ministère, donc peut-être qu'il avait déjà fait des miracles. Jean dit que c'est le commencement de ses miracles à Cana, hein? Mais c'est ce que Jean a vu. Peut-être que Jésus en a fait avant en d'autres circonstances. Peut-être, hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais Marie, elle souffre parce qu'elle ne contrôle pas la situation. Il y a peut-être dans hein, le rôle de la maman, là, hein, ils n'ont pas de vin. Voilà. Marie souffre, Joseph n'est pas nommé, et le Seigneur n'explique pas. Il dit, hein, remplissez les vaisseaux, hein, remplissez les vaisseaux d'eau, et puis voilà, l'eau est changée en vin. C'est étonnant de voir comment le Seigneur agit en face du problème, autant par rapport à Marie que par rapport aux autres, mais par rapport à Marie, il n'explique rien. Nous, je crois qu'on voudrait expliquer même quand l'autre ne veut plus entendre, pour vraiment le mettre en sécurité. Alors là, là, il y a un exemple du Seigneur qui est très sec, en fait. Si on avait suivi le Seigneur pendant les 3 ans, 3 ans et demi de son ministère, si c'est la durée de son ministère, je me demande bien quelle idée, quelle image on aurait de sa personne. Si on l'avait suivi pendant son ministère et qu'on ne sache pas que c'est le Fils de Dieu, je ne suis pas sûr qu'on soit à 100% à le critiquer. J'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Je ne suis pas sûr qu'on soit pas 100% à le critiquer. Parce qu'en fait, on dirait certainement, là, il a été trop ceci, là, pas assez cela, etc. Et du coup, comment avoir une attitude, comment dire, dans laquelle on sera certain de faire ce qu'on doit faire? C'est le ministère glorieux de la conscience. On y revient toujours. Deuxième exemple. Face à Nicodème, alors là j'ai trouvé ce vitrail de Jésus ici avec Nicodème, le docteur de la loi, qui vient le voir de nuit. Et j'ai mis de la part de Nicodème ce besoin d'authenticité, il a besoin de savoir. Et donc dans Jean 3, Nicodème se cache, il vient de nuit, il risque l'exclusion. On voit dans Jean 9, hein, que les pharisiens avaient dit que si quelqu'un confessait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. En plus de ça, il se protège et il parle au nom des responsables religieux. Hein, il dit, nous savons que tu es un docteur, etc. Mais il veut savoir. Et c'est intéressant de voir que Jésus ne répond pas à son besoin. D'ailleurs, c'est assez souvent que Jésus fait ça. Jésus ne répond pas à son besoin. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit hier, avant-hier, quand on parlait, que je vous disais de répondre aux besoins. Ça montre bien que quelquefois, on est amené parce qu'on discerne que ce n'est pas le besoin de la personne, alors on va répondre à autre chose. Il me semble que ces deux aspects ne sont pas incompatibles. Nicodème demande à Jésus de l'assurance concernant finalement le savoir, concernant ce que Jésus enseigne. Et Jésus va simplement lui dire, il te faut être né d'en haut. Comment s'est traduit Jacques dans la nouvelle traduction Jean 3, verset quelque chose? Il te faut être né, c'est de nouveau d'en haut. De nouveau. Parce que je crois qu'en grec, c'est d'en haut. Il faudra que je le vérifie. Voilà. Donc, intéressant de voir. Voilà. Intéressant de voir comment, quand on discerne le besoin profond de la personne, on peut répondre à son besoin immédiat. Mais si nous, on ne répond pas à son besoin immédiat, ça va pas. Hein, il y a quelque chose, dans un sens, on a un manque au niveau éthique, au niveau professionnel, au niveau de cette pratique pastorale. Face aux marginaux, voilà encore du Rembrandt, hein, avec les couleurs, hein, les styles, clair-obscur. Donc Jésus et la femme samaritaine. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça marginal? Parce qu'en fait, elle est marginale. Hein, elle se cache, elle est à l'écart de la société, elle vient en plein midi. Et donc son problème, c'est l'union libre. En fait, elle est marginale, elle n'est pas mariée. Celui que tu as n'est pas ton mari. Et donc, comment il fait Jésus? Alors, il fait tout le contraire, en fait, de noter son problème. Moi, j'ai été très interpellé mettons, dans mes débuts. Il y avait quelqu'un qui avait tendance à picoler. Et puis, je l'ai un peu secoué. Et il m'a dit, mais tu n'arriveras pas avec moi comme ça. Et il m'a dit, je le revois, c'était à la maison, dans les années 90, il me dit, viens boire avec moi et je te dirai ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il a eu raison de me dire ça, hein, mais je retiens un peu l'intention, en fait. Et donc, Jésus commence par exprimer son besoin, il a soif, et puis après, il ouvre à la discussion. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc, on a besoin, nous, dans ces situations dans lesquelles les souffrances sont décalées, hein, parce qu'ils ont des problèmes qui font qu'ils sont décalés, on a besoin d'être créatif. On a besoin de commencer par être proche et ensuite d'être créatif. Et à un moment donné, on a l'opportunité pour que quelque chose vienne et qu'on puisse. Qu'on puisse révéler ce qui est à révéler. Ici, c'est Judas qui se pend. Vous voyez, c'est terrible ce tableau, hein. Et j'ai mis ce tableau avec ce titre, Le Bon Berger. Le bon berger, parce que une dernière fois dans cette semaine, je souhaiterais un petit peu vous provoquer. C'est-à-dire que on peut se dire, j'y arrive pas. Et Jésus dit, des brebis que tu m'as confiées, je n'en ai perdu aucune. Mais Judas, il s'est pendu. Alors, sans rentrer dans la problématique, en fait, Est-ce que Judas est une brebis perdue ou pas? Puisque Jésus a dit, les brebis que tu m'as confiées, je n'en ai perdu aucune. Est-ce qu'elle lui a été confiée, celle-là? C'est une problématique, en fait. Mais je veux dire que... est-ce qu'on est embarrassé par ce qui pourrait ressembler à un échec? Jésus a dit, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Donc le maître, il a eu des disciples qui n'ont pas compris. Comme je le disais hier, le maître, comme disciple, il a eu Jacques et Jean qui voulaient que le feu du ciel descende, et il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est grave comme accusation. Hein, il y a donc Thomas qui a douté, il y a Pierre qui l'a renié, il y a Judas qui l'a vendu. Ça fait beaucoup quand même. On peut dire que dans l'école de disciples que Jésus a fait, là on a déjà dit quatre noms. Jacques et Jean, non, cinq, Pierre, Thomas et Judas. 5 sur 12. Et on ne sait pas ce qu'ont fait les autres. Mais aux autres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Jusque à quand vous supporterai-je? Donc je crois que quel est notre idéal de bon berger? Quel est notre idéal d'accompagnant pastoral? Et c'est pour ça que j'ai mis toute une liste de choses ici dans lesquelles on ne va pas rentrer. Ce serait beaucoup trop long. Hein, mais des choses dans lesquelles on trouve opposition, colère, ceux qui se portent mal, en porte-à-faux, fait du social, maternage, pleurs, guéris. Il est bon berger. Il est bon berger. Mais avec un bon berger comme lui, qui est-ce qui profite des soins? Il n'y en a pas énormément. Hein. Donc, je voudrais que ça nous encourage. Que ça nous encourage à faire ce qui relève de notre responsabilité. Mais quant au résultat, moi, quand on me demande « C'est quoi tes résultats de pratique pastorale ?» Je réponds pas. J'ai toujours des difficultés à faire des lettres de remerciement pour les dons. Parce que je veux surtout pas rentrer dans le résultat de ce que je fais. Je ne le possède pas. Alors j'essaye de montrer chez les gens qui me manifestent quelque chose qui puisse être profitable pour les gens, et surtout pour ceux qui souffrent. Mais face aux malades, alors l'aveugle-né, intéressant là, c'est quelqu'un de jeune, hein, de très jeune. Moi, je l'aurais pas vu comme ça, en fait, en Jean 9. Bon, c'est intéressant de voir comment, j'ai mis ici, le Seigneur ne guérit pas toujours. Dans l'évangile de Marc, au début de son ministère, on voit qu'il ne put faire à Nazareth aucun miracle, ou peu de miracles, à cause de leur incrédulité. Donc là aussi, notre responsabilité, elle est entière, mais elle dépend aussi de la responsabilité de celui qui accueille à prendre quelque chose et à le mettre en œuvre. Paralytique, aveugle, il me semble qu'il y a des symboles. Hein, paralytique, hein, la main, c'est le symbole de l'action. Les jambes, c'est le symbole de la stature, on est paralysé. Hein, on n'arrive pas à se mettre sur pied, on est paralysé, on n'arrive pas à agir, on est paralysé. On est aveugle, il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne voit pas. Mais dans ces cas-là, il y a quand même un problème général de responsabilité de la part de ceux qui ne vont pas bien. Nous et notre société, on a énormément tendance à voir les gens comme des victimes. Je pense que le texte biblique, le plus souvent, considère les gens souffrants comme des gens responsable de faire quelque chose. Autrement dit, je dirais que la pratique pastorale, c'est de permettre à quelqu'un de se mettre en mouvement, un peu comme l'onction d'huile dans Jacques 5. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu ne t'appelle pas forcément à guérir, il t'appelle à faire quelque chose. Malheureusement, la foule a souvent un comportement de mouton. Malheureusement, le souffrant est souvent quelqu'un qui fait comme les autres. Alors on a vu dans les classes d'âge que l'adolescent, ben, il faut le laisser faire comme les autres, mais l'adulte non. Et donc vous voyez bien depuis que vous m'entendez, qu'on parle ensemble, que le contact avec l'accompagnant pastoral que je suis est un contact rugueux, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on comprend et qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas laisser chez le souffrant, en fait. Face à ces comportements de mouton, dans Jean 6, par exemple, la foule qui cherche du pain, qu'est-ce que la foule veut, en Jean 6, 15, faire Jésus roi? Jésus se retire, il fuit, en fait. Dans le dialogue, on peut très bien éluder, ne pas répondre à la question. Un peu plus loin, Jean 6, 26, Jésus argumente, il me manque un « e ». Jésus argumente, Jésus dit, mais vous, voilà, vous me recherchez parce que vous recherchez, non pas pour les miracles en fait, hein, je vous ai montré ma divinité par les miracles, par les signes, mais vous, vous recherchez le pain. Hein, vous recherchez non pas Dieu, mais celui qui vous nourrit. Et vous avez tort, Jésus argumente. Jésus reprend. En Jean 6, 43, je ne me souviens pas exactement ce qu'il est dit. Jean-Paul, si tu veux le lire, s'il te plaît.
Jésus donc leur répondit et leur dit, ne murmurez pas entre vous.
Voilà.
Vous avez dit juste avant, comment donc je suis dit, je suis descendu du ciel.
Voilà, il murmurait, il critiquait Jésus, il peut-être qu'il s'opposait l'un contre l'autre. Jésus les reprend. Jean 6, 67, Jésus dit à ses disciples, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? C'est terrible, ça. Hein, si, par exemple, on entendait quelqu'un qui fait de l'accompagnement pastoral dire à quelqu'un qui souffre, mais si tu veux, tu peux partir. Mais comment on réagirait? Hein? C'est-à-dire que comment on réagirait en face de cet accompagnement? Hein? Est-ce qu'on jugerait l'accompagnant? Hein? C'est ça, en fait. Hein? On ne sait pas. Voilà. Mais donc, il faut. Mais je pense que la plupart des gens auraient tendance à juger l'accompagnant. Hein? Voilà. Voilà. Et donc, face à la foule, c'est comme ça que Jésus fait. Voilà qui est aussi à retenir. Hein? Ce comportement de Jésus qui est quand même souvent dans quelque chose d'assez absolu, d'assez paradoxal. Hein, il n'est pas beaucoup dans le maternage, Jésus. Alors oui, on l'a vu avec le bon berger, hein, Jésus, il est ému de compassion. Hein, il y a du maternage, parce qu'en fait, il va, voilà, il est ému de compassion, il multiplie les pains, il guérit la belle-mère de Pierre, il va pleurer au tombeau de Lazare, il y a de la compassion. Il va écouter, il va questionner l'aveugle. Mais Jésus est quand même très souvent dans la répréhension. Hein, ici, face à l'opposition à Nazareth, il exprime, hein, dans Luc 4, il exprime de la colère dans la synagogue, en Marc 3. Hein, il y a de la fermeté en Luc 6, 27. Des non-réponses aux Sadducéens, on a vu la non-réponse à Nicodème, les avertissements aux riches, aux pharisiens, etc. Hein, Jésus est quand même beaucoup dans la répréhension, et je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut garder globalement de son ministère de bon berger. face aux pharisiens. J'ai mis chez les pharisiens que ce qui les concerne, c'est l'inquiétude, l'orgueil et l'endurcissement. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ça vient du nom Péretz, hein, fils de Judas. Péretz, qui veut dire brèche en hébreu. Et donc les pharisiens, ce sont ceux qui se séparent, ceux qui font des brèches. Et pourquoi ils font des brèches? Parce qu'en fait, ceux qui se séparent, c'est ceux qui veulent montrer qu'ils sont différents. Ils montrent leur inquiétude. Ils ne veulent pas être assimilés à ceux qui ne sont pas comme eux. Ils ne veulent pas être contaminés en relation avec ceux qui ne sont pas comme eux. Ils sont orgueilleux, ils sont endurcis. On peut retenir dans Matthieu ces deux expressions du Seigneur Jésus qui dit « Allez, Matthieu 9, et sachez ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice. » Mais en Matthieu 12, il dit encore « Si vous aviez su ce que c'est que, cette citation d'Osée, je veux miséricorde et non pas sacrifice. » Il y a de l'endurcissement. Et donc, on voit dans cette rencontre de Jésus avec les pharisiens en Jean 7, que quelquefois Jésus, face à l'inquiétude, l'orgueil, l'endurcissement, quelquefois Jésus est humble. Hein, j'ai noté Jean 7, 15, où je lis Jésus, fin du verset 14, Jésus monta au temple, il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment celui-ci connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a pas apprises ?» Jésus leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus est humble. Voilà. Il présente simplement le fait qu'il a été envoyé par le Père. Mais au verset 24, il est ferme. Hein, il dit, alors qu'il parle du fait qu'il a guéri un homme le jour de sabbat, il dit « Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez du jugement juste. » Quand on lit l'Évangile, on peut peut-être être, oublié que ici Jésus est pendant la fête à Jérusalem. Autrement dit, il y a les chefs religieux. Hein, on pourrait se dire, si aujourd'hui Jésus était à Rome, qui voit le pape, hein, les archevêques, les évêques, les cardinaux, etc., et que Jésus s'adresse en fait aux chefs religieux en leur disant « portez un jugement juste ». Voilà, là il est ferme. On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de particulier. Verset 34, il avertit « Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Là où moi je serai, vous ne pouvez venir. » Voilà donc des attitudes qui sont claires, qui sont posées face aux pharisiens. Nous, dans la pratique pastorale, on a des gens qui sont sous des règles. Comment les faire sortir des règles? Hein, je pense que c'est peut-être le plus difficile. Ça, parce que les règles donnent une fausse sécurité. Et voyez comme Jésus est à la fois humble, ferme, averti. Voilà. Il faut peut-être souffler le chaud et le froid. Humble, ferme. D'un autre côté, face aux pécheurs, hein, regardez ici, on voit un peu les visages. D'abord le visage de Jésus avec la femme adultère en Jean 8. Mais avec cette femme qui est là, regardez le visage des gens. On ne les voit pas bien parce que j'ai un peu étiré la photo. Mais c'est assez terrible de regarder un peu celui-là, là par exemple, comme il est curieux, il est un peu ailleurs. À quoi est-ce qu'il doit penser? Celui-là, comme il est bestial. Terrible, hein? Hein? Voilà. Celui-là, il a l'air d'écouter, mais il écoute Jésus, mais il regarde la femme. Par contre, celui-là regarde Jésus, apparemment. Je ne sais pas. Hein, voilà. Et en fait, voilà. Jésus, il est en fait entre un peu le marteau et l'enclume. Hein, le marteau, c'est les pharisiens ou les anciens. Et l'enclume, c'est la femme, cette femme adultère. Qu'est-ce qui montre? J'ai mis patience, doctrine solide et relèvement. Simplement lire Jean 8, verset 7 pour montrer ce qui m'a touché dans ces passages à l'égard de la patience de Jésus. Hein, il est dit, comme il continuait à l'interroger, alors qu'il écrivait avec le doigt sur la terre. Hein, on a l'impression que, comme il continuait à l'interroger, on a l'impression qu'il y a du temps qui se passe. Il écrit, il continue à l'interroger, et alors il dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Autrement dit, il y a beaucoup d'attente, hein, il laisse le temps en fait. Il laisse du temps à chacun pour que chacun se pose. Et il est face à ceux qui sont extérieurs, hein, en fait. Mais ils sont pécheurs aussi. Hein, c'est la femme adultère qui a le problème. Mais les autres ont également un problème parce qu'ils sont juges. Et il est patient. Mais il y a une doctrine solide. Mais c'est une doctrine qui n'est pas dans la loi que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est pas dans la loi, ça. C'est intéressant, hein, de se dire, mais quelquefois, ce qui peut toucher quelqu'un, c'est une expression, c'est quelque chose qui a un rapport à la loi. Et ensuite, Jean 8, 11, le Seigneur Jésus dit à la femme, « Nul ne te condamne ?» Elle dit non, elle dit « Nul, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. » Waouh ! Je ne sais pas si, je sais pas qu'est-ce que ça fait chez vous, ça, mais c'est un petit peu comme si on disait à l'alcoolique, ne bois plus. Alors, ça, je trouve que ça remet pas mal de choses en place. Parce qu'on a l'impression que pour l'alcoolique, il faut un accompagnement long, etc. Et Chan a pas mal insisté sur la puissance de la croix et de la personne de Jésus-Christ. Je pense qu'il a raison. Et en attendant, il y a bien des moments où il faut aussi insister sur d'autres choses. Alors, on arrive à la fin de notre réflexion sur l'Évangile. Les disciples, Jean 13... Vous savez que dans les 11 premiers chapitres, il y a un ministère du Seigneur Jésus, hein, qui se finit en quelque sorte, qui se finit en quelque sorte avec la résurrection de Lazare. Et au chapitre 40, au chapitre 11, verset 47, les Juifs disent. Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Hein, on a à partir de là des gens, des juifs qui veulent assassiner Jésus parce qu'il fait beaucoup de miracles. Et donc après, on a le Seigneur qui est avec ses disciples. Vous voyez ce tableau-là. Peut-être c'est encore du Rembrandt, ça je ne sais pas. Où Thomas met le doigt dans son côté, c'est impressionnant, hein. Et donc, chez les disciples, il y a de l'ignorance. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, du doute. Hein, la comparaison, Pierre qui se compare à Jean, reniement. Et donc, j'ai noté, parmi les disciples, l'attitude de Marie, Jean 11, 35, hein, où Marie se jette à ses pieds, c'est quand Jésus pleure, à la mort de Lazare. J'ai noté en Jean 13, 7 l'encouragement pour Pierre, hein, où Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Voilà une parole, une petite parole d'encouragement. L'avertissement à Judas, Jean 13, 27, ce que tu fais, fais-le vite. C'est terrible ça. Hein, et... je me souviens, par exemple, de quelqu'un qui, pendant quelques années, m'a parlé de sa vengeance contre ceux qu'il avait fait travailler. Et à un moment donné, Il a continué à parler de ça. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, bon courage, Don Quichotte. Voilà. Tu veux te battre contre des moulins, alors vas-y. Et donc, il me semble qu'il y a un moment donné où, comme entre Jésus et Judas, il faut qu'on marque les choses. Avec Thomas, la répréhension, Jean 20, 27, hein, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avec Pierre, la restauration, Jean 21, 15. Je pense que c'est Jean 21, 15. Donc, c'est Seigneur, m'aimes-tu? Et il dit plus que ne font ceux-ci. Autrement dit, il rentre dans le jeu de comparaison de Pierre en essayant de faire réagir. Et bon. Alors pour finir, je vous propose cette image que je vais un peu commenter pour l'enregistrement. Un dessin qui dit « Ma petite sœur a fait un dessin de Jésus ». C'est le frère qui parle. Jésus est difforme. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu l'as dessiné comme ça? Elle m'a répondu, pour qu'il puisse accueillir tout le monde. Et donc Jésus est difforme, c'est qu'il a des bras qui font 3 km de long. Et donc je trouve que nous avons, nous, à... je vous propose de garder 3 versets de cette de réflexion. Le premier, c'est marcher dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Autrement dit, Jésus est le bon berger. Nous avons à imiter des choses par rapport à la pratique pastorale, à imiter des choses chez lui. Deuxième chose, le Christ a souffert, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. Et ce modèle, ce n'est pas un modèle très agréable. Je pense à ce verset de Jérémie 17. Je crois que c'est Jérémie 17, verset 16. Mais je vais chercher la référence où Jérémie dit, c'est ça, Jérémie 17, verset 16, « Moi, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur. » Je répète, hein, « Je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur. » Autrement dit, être pasteur, ce n'est pas facile. Mais, de toute façon, tout est difficile, pas vrai? Jérémie 17, 16. Et donc, la véritable imitation de Jésus-Christ, c'est, comme dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, verset 1, d'être témoin. 17, 16, Jérémie 17, 16. Et donc, la véritable imitation, c'est d'être témoin des souffrances de Christ. Autrement dit, je le regarde, je m'en imprègne, et dans un sens, j'en arrive à des convictions personnelles qui sont et qui me permettent d'avancer.